Chapitre 28. Richelieu. L'hôtel de Richelieu était situé à 100 pas de cette maison qui faisait l'encoignure de la rue Dauphine et d'où Cogolin avait vu sortir la femasse. Or, ce matin-là, Monseigneur de Luçon, ayant expédié sa messe, passa dans sa chambre où son valet lui retira ses ornements pour le vêtir d'un habit de cavalier. On était encore si près des guerres religieuses où les cardinaux poussaient plus de charges à la tête de leur être qu'ils ne donnaient de bénédictions, que nul, alors, ne s'étonnait de voir un prince de l'Église la salade en tête et l'estramaçon au poing, encore moins de l'admirer en habit de courtisan, l'épée au côté. « Mon secrétaire, » fit alors l'évêque d'un ton bref. Le valet de chambre s'éclipsa, pareil à une ombre effarée. Un instant plus tard, la femasse entra, pareille à une autre ombre, mais plus glissante, plus rampante. « J'écoute, » dit Richelieu. À voix basse, la femasse commença son rapport, que l'évêque écouta sans qu'un pli de son visage indiquât qu'il s'intéressait à ce qu'on lui racontait. Seul, le regard, parfois, jetait une flamme brûlante qui, tout aussitôt, s'éteignait. Disons seulement que, dans ce rapport, il était question de quatre points stratégiques. La maison du coin de la rue Dauphine, l'hôtel d'Angoulême, la maison de la rue des Barrés, le tripot de la rue des Ursins, et de quatre personnages, le duc d'Angoulême, Gisèle, le chevalier de Capestan, Marion de Lorme. Lorsque la femasse eut fini de parler, l'évêque demeura silencieux, immobile, l'œil ardent, le sourcil froncé. Dans son costume grenat à bouffettes cramoisies, en cette attitude de rêverie perverse, avec des pointes de moustache retroussées et sa royale noire, dans la pénombre de cette chambre, il était tel que Méphisto dut apparaître à Faust. « Je me résume, monseigneur. Primo, affaire d'État. Il y aura réunion à l'hôtel d'Angoulême. Dans un dîner où se sont réunis les amis de monsieur le prince de Condé, on a crié « Barre en bas !» Ce qui prouve que monsieur le prince, tout en poussant Angoulême, travaille pour lui-même. Dans le même ordre d'idées, madame la maréchale d'Ancre a paru se rallier secrètement aux prétentions de monsieur d'Angoulême. Le maréchal d'Ancre était pris de la fille du duc et l'a fait chercher. Secondo, affaire personnelle. J'ai suivi mademoiselle de Lorme. Elle a des rendez-vous avec le chevalier de Capestan dans un tripot de la rue des Ursins. En ce qui concerne Capestan, il faut rapprocher de la passion qu'éprouve Concini pour Gisèle la conversation que j'ai surprise à l'hôtel d'Angoulême entre le duc et sa fille, conversation qui prouve que cette noble demoiselle éprouve pour le sire de Capestan des sentiments que condamne son père. Quant au jeune Saint-Mars, il paraît avoir renoncé à tout espoir sur mademoiselle de Lorme. Enfin, la fille de monsieur d'Angoulême habite rue des Barrés. C'est tout. Alors Richelieu tressaillit. Il se rapprocha de l'espion, lui mit la main sur l'épaule et le récompensa. « C'est bien, mon cher monsieur de Lafemas, vous ferez un prévôt de police génial. » Lafemas se redressa sur ses ergots et chercha à grandir sa petite taille comme pour se mettre à hauteur du terrible poste qu'on lui promettait. Sa figure s'enfiela d'orgueil. « C'est bien, reprit l'évêque, vous viendrez au rapport demain matin. » Vous trouverez sur la cheminée de mon cabinet du rez-de-chaussée un petit sac contenant 100 pistoles et une corbeille de fleurs. Le sac est pour vous. Quant à la corbeille, faites-la porter par un de mes laquais à l'hôtellerie des Trois Monarques. Vous me direz ce soir la réponse qui aura été faite. Allez !» La femasse disparut. Richelieu sortit à son tour, de ce pas à la fois orgueilleux et félin qui lui était particulier. Dans la cour de l'hôtel, il monta à cheval et, suivi d'un laquais, se dirigea vers la rue de Tournon. Il arriva à l'hôtel Concini. Richelieu fut immédiatement reçu par Concini, qui commençait à redouter ce prêtre pâle et sournois, ainsi qu'il appelait l'évêque de Luçon. L'attaque de l'évêque fut foudroyante. « Monsieur le maréchal, dit-il en s'asseyant dans le fauteuil que lui désignait Concini, avant d'en parler officiellement au sein du Conseil, j'ai tenu à vous entretenir en particulier de la conspiration du bâtard de Charles IX et des mesures d'État qu'elle doit entraîner. » Concini tressaillit. De cette conspiration, jusqu'alors, on avait bien parlé à mots couverts. Tout le monde y pensait bien, depuis le roi jusqu'à Luynes. mais on évitait de l'envisager, ou du moins on feignait de n'y attacher aucune sérieuse importance. Concini reçut donc comme un coup de masse à la tête la brutale et violente ouverture de l'évêque. Mais il demeura souriant. « Siffle, vipère » songea-t-il. « Monsieur l'évêque, dit-il tout haut, votre démarche m'est une nouvelle et précieuse preuve de l'amitié que vous voulez bien me témoigner. Cette conspiration, eh, Christo Santo, je n'en mange plus, je n'en dors plus. » « En effet, dit Richelieu, en dardant sur le maréchal son regard d'une funeste clarté, vous voici tout maigri, tout pâle. Si je ne savais que le souci des affaires publiques vous ronge, et ce doit être un rude souci, eh bien, je dirais que vous subissez en ce moment une crise de maladie, une maladie du cœur par exemple. » De pâle qu'il était, Concini devint livide. « Le cœur est solide, gronda-t-il, ne vous inquiétez pas. Quant au duc d'Angoulême... » Concini s'arrêta, il haletait. Sa pensée, brusquement, à l'appel de ce nom, se reportait sur Gisèle. La douleur qui se déchaînait en lui le faisait trembler. Son front se mouilla de sueur, un soupir souleva sa poitrine. « Morte, morte » râla-t-il, « que m'importe le reste ?»« Décidément, dit Richelieu, il faut que vous preniez garde à votre cœur. Avez-vous consulté Héroir ?» « Laissons cela, » fit brusquement Concini en se domptant. « Quant à la conspiration, c'est un jeu d'enfant, monsieur l'évêque, si nous pouvons mettre la main sur le duc. Mais toute la question est là, et, comme je vous le disais, j'en perds l'appétit et le sommeil. Auriez-vous un bon conseil à me donner ? Ah, que je vous en serais reconnaissant ! J'ai mieux à vous offrir que des conseils, » dit Richelieu d'une voix qui caressait, mais sous cette caresse on devinait la menace, comme les griffes sous la patte veloutée du tigre. « Voyons, » dit Concini en se renversant sur le dossier de son fauteuil. « D'abord, monsieur le maréchal, laissez-moi vous dire qu'il faut agir vite. Sinon, des envieux comme celui, des langues intempérantes comme cet ornano, pourraient dire que, secrètement, nous poussons le conspirateur, et alors c'est tout simplement notre tête que nous risquerions. » « Il sait, » rugit Concini en lui-même, « il sait que Léonore a parlé au duc. Je suis perdu. » Concini jeta autour de lui des yeux hagards. Richelieu, d'un geste rapide, s'assura qu'il avait bien sa bonne cotte de maille sur la poitrine et son bon poignard à sa ceinture. Malgré cotte et lame, si Rinaldo était entré à ce moment, l'évêque était un homme mort. « Folie, chimère !» balbutia Concini. « Quel intérêt aurais-je, moi, moi qui dois tout au roi et à la reine ?» Il éclata de rire nerveusement. « Je n'ai pas dit vous, » reprit Richelieu, paisible comme un juge terrible, comme le bourreau. « J'ai dit nous. Et tenez, je dirais même moi. Supposons par exemple que par fatalité je sois tombé amoureux de la fille de l'homme qu'il faut que j'arrête, qu'il faut que je livre à la hache ou à la corde. « Mais je dis amoureux fou, vous comprenez ? Amoureux à en perdre la raison, à en risquer la disgrâce de la puissance souveraine qui, de rien que j'étais, a fait de moi le personnage le plus redoutable du royaume, après vous toutefois. Oui, supposons cela, maréchal, et supposons qu'on le sache. Ne comprenez-vous pas, dès lors, que je pourrais être accusé de favoriser les desseins du conspirateur ? Ne comprenez-vous pas que, dès lors, c'est moi que le roi devra faire arrêter ?» Concini se sentait mourir, la tête lui tournait, un flot de sang empourprait son front et mettait des fibrilles rouges à ses yeux. D'un effort furieux, il réagit. Brusquement, il se redressa. « Ah, prêtre maudit » hurla-t-il dans sa pensée, tandis que, par prodige, ses lèvres souriaient. « Tu tiens ma fortune et ma vie dans ta main. Eh bien, meurs donc !» Il allait dégainer son poignard, il allait se ruer sur l'évêque. À ce moment, celui-ci, un peu pâle mais toujours paisible, lui dit « Sans compter qu'on chercherait à m'assassiner. Heureusement, je porte une cotte de maille qui eût défié jusqu'au couteau de Jacques Clément et de Ravaillac, jusqu'au poignard de votre compatriote Castruccio. Je l'ai fait venir de Tolède. Et vous, monsieur le maréchal ?» Concini souffla comme le taureau qu'on vient de banderiller. Puis, dompté, se domptant lui-même, il reprit sa place en disant « Père la Santissima Trinita, mon cher monsieur de Luçon, tout ce que vous me dites là, je me tue à me le dire. Et c'est pourquoi, bien que je n'ai pas à me reprocher les pensées ou l'amour que vous me supposiez, pour vous, pas pour moi, eh bien, j'ai résolu de faire arrêter Angoulême. Mais comment ? Mais comment ? Tout est là, sang du Christ ! Et Concini grinça des dents. Je puis bien le faire arrêter, puisqu'elle est morte, sanglota-t-il en lui. Maréchal des Richelieu, je vous apporte, vous disais-je, mieux que des conseils dont vous n'avez que faire. Je vous apporte des renseignements exacts, précis. Vous connaissez le vieil hôtel d'Angoulême. Je sais que le duc y sera cette nuit. Je précise, il arrivera à 10 heures du soir et entrera par la petite porte qui se trouve sur les quais. Il est donc à Paris, fit Concini avec un admirable étonnement. Il y est. Je dis donc que cette nuit, entre 10 et 11 heures, il suffira de cerner l'hôtel d'Angoulême et de le fouiller. Ah, monsieur l'évêque, vous me rendez la vie, c'est-à-dire le sommeil et l'appétit. Un tel service ne saurait demeurer sans récompense. Parlez, que désirez-vous ? Richelieu réfléchit une minute pour la forme, puis répondit : La jeune reine Anne d'Autriche n'a pas encore d'aumônier. Bien, monsieur, demain je fais signer votre nomination. Vous êtes aumônier de la reine. Ramasse, continua Concini en lui-même. Ramasse les bribes de mon opulence et de ma puissance. Ramasse, prêtre orgueilleux, prêtre mendiant, jusqu'à ce que tu ramasses, au détour de quelques ruelles, un bon coup de pistolet dont ta côte ne te sauvera pas, toute de Tolède qu'elle soit. Richelieu avait tressailli de joie. Ce poste d'aumônier de la reine qu'il venait d'obtenir par ruse et menace, il le convoitait ardemment. C'était son entrée dans le ménage royal. Il cherchait comment il pourrait remercier Concini et lui faire oublier qu'il venait de le conduire jusqu'au bord des abîmes de l'épouvante. Et il trouva. « Maréchal, dit-il, mes renseignements ne s'arrêtent pas là. Quel nouveau coup va-t-il me porter ?» songea Concini, qui, les dents serrées, le visage convulsé, se demandait s'il ne ferait pas mieux d'étrangler de suite ce terrible jouteur. Monsieur le maréchal, après avoir arrêté le père, il serait peut-être bon, non pas d'arrêter, mais de faire disparaître la fille. Elle est l'âme de la conspiration. Concini leva la tête vers Richelieu. Il souffrait atrocement. Ce prêtre lui parlait depuis 1 heure de Gisèle comme si elle eût été vivante. Et elle était morte. Morte, assassinée par Marie de Médicis, jetée à la Seine, noyée par les bras de la reine-mère. « Que dites-vous là, monsieur l'évêque ? » fit-il d'une voix morne. « Celle dont vous parlez n'est plus. »« Vous vous trompez, maréchal, » dit Richelieu, convaincu que Concini tentait une feinte. « Celle dont je parle, c'est-à-dire Gisèle d'Angoulême, est si bien vivante qu'elle a été vue hier et les jours précédents. » Concini se leva, il chancelait. Il marcha à l'évêque, saisit ses mains qu'il étreignit convulsivement et bégaya. « Répétez, ô Richelieu, si un cœur d'homme bat sous votre côte de maille, répétez par pitié. » « Je dis, reprit l'évêque étonné cette fois, j'affirme que Gisèle d'Angoulême est vivante, que vous la trouverez quand vous voudrez, rue des Barrés, dans la maison de Marie Touchet, et qu'il est nécessaire qu'elle disparaisse. » « Pas d'arrestation, maréchal, cela ferait du scandale. Une simple séquestration secrète. »« Oh, mais vous vous affaiblissez, je crois. Maréchal !» Richelieu chercha des yeux une sonnette, un signal d'appel quelconque. Concini, foudroyé, venait de tomber à la renverse dans son fauteuil en jetant un cri qui ressemblait à un gémissement lugubre et qui était la clameur d'une joie surhumaine. À ce moment, une tenture se souleva. Léonora Galiga y entra. Sans dire un mot, elle fit respirer à son mari un flacon qui contenait un puissant révulsif. Concini ouvrit les yeux et vit Léonore. Du premier coup d'œil, il comprit qu'elle avait tout entendu. « Tu étais là ? » dit-il dans un souffle d'épouvante. « Oui, » répondit-elle avec un accent glacial, mortel, formidable. Il n'y avait de vivant dans son visage de cire que ses magnifiques yeux noirs où Concini, comme un livre ouvert, lisait la condamnation de Gisèle. elle jeta sur Concini un regard où rayonnait son amour, où flamboyait sa volonté sauvage. « Laisse-moi faire, murmura-t-elle, ne t'inquiète de rien, et confiance en Léonora. Tu sais de quel sacrifice son amour est capable. Occupe-toi du père pour ce soir, moi je m'occupe de la fille. Sur Dieu, sur ce cœur qui brûle pour toi, Concino, je jure de respecter la vie de cette fille. » Quand je l'aurai amenée ici, dans cet hôtel, nous discuterons ensemble sur son sort. Va, mon Concino, va reposer ta pauvre tête brûlante. Tu as failli mourir de joie et moi de douleur. » Elle était sublime. « Monsieur de Luçon, dit-elle en se tournant vers l'évêque, je ne crois pas me tromper en affirmant que vous n'en avez pas fini et que vous aviez encore un ou plusieurs renseignements à nous donner. Vous voyez que monsieur le maréchal est souffrant. « Voulez-vous condescendre jusqu'à vouloir bien me suivre dans mon oratoire ?» Concini ne fit pas un geste pour s'opposer à cet arrangement. Il vivait une de ces minutes où tout disparaît, calcul, ambition, force morale, où la passion s'installe en souveraine sur un cerveau d'homme et défend à tout autre sentiment d'y entrer. Quelques instants plus tard, Richelieu se trouvait dans l'oratoire de Léonore, luxueuse salle meublée avec élégance et richesse. « Qu'aviez-vous encore à dire à monsieur le maréchal » demanda-t-elle, autoritaire et prestigieuse, comme elle l'était avec tous ceux qui l'approchaient. Le front de Richelieu s'assombrit. À son tour, il frissonna, non d'amour, mais de haine. Il comprit que tout ce qu'il avait dit dans le cabinet de Concini n'était que pour amener ce qu'il allait dire. Sa voix se fit âpre et sifflante. « Madame, vous êtes un grand politique et vous comprendrez que souvent le destin d'un État dépend d'un être infime, que souvent la carrière d'illustres personnages est arrêtée, brisée par un de ces hommes trop bas placés pour attirer l'attention. » Léonora tressaillit. Un flot de haine souleva son sein, car de ces êtres infimes, elle en connaissait un. De ces hommes placés si bas, il y en avait un qui avait sinon brisé, du moins arrêté par deux fois sa carrière. « Capestan » grinça-t-elle au fond de sa pensée. « Oh, si mon pressentiment pouvait ne pas me tromper, oh, si ce prêtre allait me livrer l'infernal Capestan, je lui pardonnerais de ressusciter Gisèle. » Richelieu étudiait Léonore de son regard étrangement clair. À ce moment, les yeux brûlants de Léonore se posèrent sur lui, et il comprit que leurs pensées étaient à l'unisson. « Madame, dit Richelieu, l'arrestation d'Angoulême sera une faute. » La disparition de Gisèle sera un crime. Toutes nos tentatives pour sauver l'État avorteront misérablement si celui dont je vous parle n'est pas réduit à l'impuissance. Ce n'est pourtant ni un prince comme Condé, ni un duc comme Guise, ni un favori comme Luynes. Mais c'est un esprit fulgurant, c'est un cœur indomptable, c'est une lame d'épée vivante. Il s'appelle le chevalier de Capestan. « Capestan ! » gronda Léonore. « Vous le connaissez donc ? Vous le haïssez donc, vous aussi ?»« Oui, je le hais !» Ce furent deux explosions d'âme, bourrées de haine jusqu'à la gueule. Dans cette seconde, ces deux profonds simulateurs dédaignèrent de dissimuler. Ils s'apparurent l'un à l'autre ce qu'ils étaient, deux fauves rués sur le monde, poussés par les mêmes appétits, doués de la même volonté violente. Tout était dit entre eux. Une minute, ils demeurèrent l'un en face de l'autre, flamboyant, se faisant peur peut-être, ou peut-être s'admirant. « Marion est à moi !» songea Richelieu, qui, reprenant presque aussitôt son sang-froid, ajouta « Je le hais, madame, parce que ce misérable cadet peut déranger de grands desseins. Il ne m'a fait aucun mal à moi, mais il peut en faire à l'État par son esprit d'audace et d'intrigue, et surtout par l'influence qu'il peut exercer sur Gisèle d'Angoulême. « Sur Gisèle !» murmura Léonore frémissante de ce qu'elle entrevoyait. « Quelle influence !»« Elle l'aime » « Êtes-vous sûr de cela » frissonna-t-elle. « Elle l'aime, et il l'aime, ou du moins il feint de l'aimer, car je crois savoir qu'en réalité le cœur et l'esprit de cet aventurier sont pris ailleurs. » Richelieu eut un soupir de rage. « Mais vous comprenez quelle proie peut être une Gisèle d'Angoulême pour cette affamée venue à Paris pour y chercher fortune. Quant à elle, sa passion est profonde et sincère. Une conversation a été surprise une nuit à l'hôtel d'Angoulême. Elle y avouait, elle y proclamait son amour à son père. « Oh !» murmurait Léonore, « je commence à voir clair. Ce prêtre se trompe. Capestan aime Gisèle. C'est pour elle, c'est pour la conquérir qu'il accomplit des prodiges. Il s'aime !» ajouta-t-elle avec une joie effroyable. « Je tiens ma vengeance !» Il s'agit donc, reprit l'évêque, d'abattre tout d'abord cet obstacle. « Madame, il faut supprimer Capestan. » « Je crois que vous avez raison, » dit froidement Léonore. « Je ferai chercher cet homme, et quand il sera trouvé... »« Il est trouvé, » interrompit Richelieu, « dans une pauvre auberge de la rue de Vaugirard, à l'enseigne de Grand Henri. On le prendra quand vous voudrez. » Richelieu s'inclinait. Quand il se redressa et que ses yeux se portèrent sur Léonore, il la vit si terrible que, de nouveau, il s'inclina très bas pour cacher sa propre joie. « Capestan est un homme mort, Marion est à moi !»« Madame, reprit-il à haute voix, j'ose espérer que les avis du pauvre évêque que je suis à l'illustre homme d'État qu'est monsieur le maréchal d'Ancre seront accueillis en bonne part. » Léonore a saisi la main de l'évêque et, tout bas, d'une voix où grondait sa joie furieuse, « Richelieu, dit-elle, Concino vous a promis pour demain le titre d'aumônier de la reine. » Je cherche depuis un instant ce que je pourrais vous promettre, moi, et voici ce que je trouve. Richelieu, avant la fin de l'année, vous serez cardinal. » L'évêque pâlit, il se courba sur la main de Léonora Galigaille et, d'un baiser éperdu, scella le pacte d'alliance, pacte d'ambition, pacte de crime.